Chapitre 2. Entre 10 et 11 heures, le lendemain matin, une sœur converse entra dans ma chambre et me dit de la part de l'abbesse qu'il y avait une femme de chambre de Madame de Miran qui venait pour me prendre avec le carrosse et qu'ainsi je me hâtasse de m'habiller. Je le crois, il n'y avait rien de plus positif et je m'habille. J'eus bientôt fait un demi-quart d'heure après, je fus prête et je descendis. La femme de chambre en question, qui se promenait dans la cour, parut à la porte quand on me l'ouvrit. Je vis une femme assez bien faite, mise à peu près comme elle devait être, avec des façons convenables à son état, enfin, une vraie femme de chambre extrêmement révérencieuse. De douter qu'elle fût à Madame de Miran, en vertu de quoi cette défiance me serait-elle venue? Voici le carrosse dans lequel elle est arrivée, et ce carrosse est à ma mère. Il était un peu différent de celui que je connaissais et que j'avais toujours vu, mais ma mère peut en avoir plus d'un. « Mademoiselle, me dit cette femme de chambre, je viens vous prendre et Madame de Miran vous attend. » « Serait-ce, lui dis-je, qu'elle va dîner ailleurs et qu'elle veut m'emmener avec elle? Il est pourtant de bonne heure. » « Non, non, c'est pour aller nulle part, je pense. Il me semble que c'était seulement que pour passer la journée avec vous, » me répondit-elle après avoir un instant hésité, comme une personne qui ne sait que répondre. Mais cet instant d'embarras fut si court que je n'y songeais que lorsqu'il ne fut plus temps. « Allons, mademoiselle, lui dis-je, partons. » Et sur le champ, nous montâmes en carrosse. Je remarquai cependant que le cocher m'était inconnu. Et il n'y avait point de laquais. Cette femme de chambre se mit d'abord vis-à-vis de moi, mais à peine fûmes-nous sortis de la cour du couvent, qu'elle me dit « Oh, je ne saurais aller de cette façon-là. Vous voulez bien que je me place à côté de vous ?» Je ne répondis mot, mais je trouvais l'action familière. Je savais que ce n'était point l'usage, je l'avais entendu dire. Et pourquoi, pensais-je en moi-même, cette femme en agit-elle si librement avec moi, qui suis censé être si fort au-dessus d'elle et qu'elle doit regarder comme une amie de sa maîtresse? Oh, je suis persuadé que ce n'est pas là l'intention de Madame de Miran. Après cette réflexion, il m'en vint une autre. J'observai que le cocher n'avait point la livrée de ma mère, et tout de suite je songeai encore à cette étonnante visite que j'avais reçue la veille de cette parente de Madame de Miran, et toutes ces considérations furent suivies d'un peu d'inquiétude. « Mais qu'est-ce que c'est que ce cocher ? Lui dis-je. « Je ne l'ai jamais vu à votre maîtresse, mademoiselle. » « Oh, s'il n'était point à elle, me répondit cette femme, c'est celui d'une dame qu'il est venu voir et qui a bien voulu le prêter pour l'amener au couvent. » Et pendant ce temps, nous avancions. Je ne voyais point encore la rue de Madame de Miran, que je connaissais, qui était aussi celle de la Dutour. Vous vous souviendrez bien que je savais le chemin de chez cette lingère à mon couvent, puisque c'était de chez elle que j'étais parti pour m'y rendre avec mes hardes, que j'y fis porter, et je ne voyais aucune des rues que j'avais traversées alors. Mon inquiétude en augmenta si fort que le cœur me battit. Je n'en laissais pourtant rien paraître, d'autant plus que je m'accusais moi-même d'une méfiance ridicule. « Arriverons-nous bientôt ?» lui dis-je. « Par quel chemin nous conduit donc ce cocher ?»« Oh, par le plus court, et dans un moment nous nous arrêterons, » me répondit-elle. Je regardais, j'examinais, mais inutilement. Cette rue de la Tour et de ma mère ne venait point. Et qui pisait, voici notre carrosse, qui entre subitement par une grande porte, qui était celle d'un couvent. « Eh, mon Dieu ! M'écriai-je alors, où me menez-vous ? Madame de Miran ne demeure point ici, mademoiselle. Je crois que vous me trompez. » Et aussitôt, j'entends refermer la porte par laquelle nous étions entrés, et le carrosse s'arrête au milieu de la cour. Ma conductrice ne disait mot. je changeais de couleur, et je ne doutais plus qu'on eût fait une surprise. « Oh, misérable, dis-je à cette femme, mais où suis-je et quel est votre dessein ?»« Point de bruit, me répondit-elle, il n'y a pas si grand mal, et je vous mène en bon lieu, comme vous voyez. » Au reste, mademoiselle Marianne, c'est en vertu d'une autorité supérieure que vous êtes ici. On aurait pu vous enlever d'une manière qui fait plus d'éclat, mais on a jugé à propos d'y aller plus doucement, et c'est moi qu'on a envoyé pour vous tromper, comme j'ai fait. » Pendant qu'elle me parlait ainsi, on ouvrit la porte de la clôture, et je vis deux ou trois religieuses qui, d'un air souriant et affectueux, attendaient que je fusse descendu de carrosse et que j'entrasse dans le couvent. « Venez, ma belle enfant, venez !» s'écrièrent-elles. « Ne vous inquiétez point, vous ne serez pas fâchée d'être parmi nous. » Une tourière approcha du carrosse, où, la tête baissée, je versais un torrent de larmes. « Alors, mademoiselle, vous plaît-il de venir ?» me dit-elle en me tendant la main. « Aidez-la de votre côté, » ajouta-t-elle à la femme qui m'avait conduite. Je descendis, mourante. Il fallut presque qu'elle me portasse. Je fus remise, pâle, interdite et sans force, entre les mains de ces religieuses, qui de là me portèrent à leur tour jusqu'à une chambre assez propre, où elles me mirent dans un fauteuil à côté d'une table. J'y restais sans dire mot, toute baignée de mes larmes, et dans un état de faiblesse qui approchait de l'évanouissement. J'avais les yeux fermés. Ces filles me parlaient, m'exhortaient à prendre courage, et je ne leur répondais que par des sanglots et par des soupirs. Enfin, je levai la tête et jetai sur celle une vue égarée. Alors une de ces religieuses, me prenant la main et la prenant récente entre les siennes, « Allons, mademoiselle, tâchez donc de revenir à vous, me dit-elle. Ne vous alarmez point, ce n'est pas un si grand malheur que d'avoir été conduite ici. Nous ne savons pas le sujet de votre douleur, mais de quoi est-il question ? Ce n'est pas de mourir, c'est de rester dans une maison où vous trouverez peut-être plus de douceur et plus de consolation que vous ne pensez. Dieu n'est-il pas le maître ? Hélas, peut-être remercierez-vous bientôt de ce qui vous paraît aujourd'hui si fâcheux. Ma fille, patience, c'est peut-être une grâce qu'il vous fait. Calmez-vous, nous vous en prions. N'êtes-vous pas chrétienne ? Et quels que soient vos chagrins, faut-il les porter jusqu'au désespoir, qui est un si grand péché ? Hélas, mon Dieu, nous arrive-t-il rien ici-bas qui mérite que nous vous offensions ? Pourquoi tant gémir et tant pleurer ? Vous pouvez bien penser qu'on n'a contre vous aucune intention qui doit vous faire peur. On vous a dit mille biens de vous avant que vous vinssiez. Vous nous êtes annoncée comme la fille du monde la plus raisonnable. Montrez-nous donc qu'on a dit vrai. Votre physionomie promet un esprit bien fait. Il n'y en a pas une de nous ici qui ne vous aime déjà, je vous assure. C'est ce que nous nous sommes dites, toutes tant que nous sommes, seulement en vous voyant, et si madame n'était pas indisposée et dans son lit, ce serait elle qui vous aurait reçue, tant elle est impatiente de vous voir. Ne dépentez donc point la bonne opinion qu'on vous a donnée de vous et que vous nous avez donnée vous-même. Nous sommes innocents de l'affliction qu'on vous cause. On nous a dit de vous recevoir et nous vous avons reçu avec tendresse et charmé de vous. Hélas, ma mère, répondis-je en jetant un soupir, mais je ne vous accuse de rien. Je vous rends mille grâces à vous et à ces dames de tout ce que vous pouvez penser d'obligeant pour moi. Et je leur dis ce peu de mots d'un air si plaintif et si attendrissant. On a quelquefois des tons si touchants dans la douleur, et avec cela j'étais si jeune et par là si intéressante que je fis, je pense, pleurer ces bonnes filles. « Elle n'a pas dîné, sans doute, » dit une d'entre elles. Il faudrait lui apporter quelque chose. Il n'est pas nécessaire, repris-je. Je vous en remercie, je ne mangerai point. Mais il fut décidé que je prendrais du moins un potage, qu'on alla chercher, qu'on apporta avec un petit dîner de communauté, et pour dessert, du fruit d'assez bonne mine. Je refusais le tout d'abord, mais ces religieuses étaient si pressantes, et ces personnes-là, dans leur douce façon, ont quelque chose de si engageant que je ne puis me dispenser de goûter de ce potage, de manger du reste et de boire un coup de vin et d'eau, toujours en refusant et toujours en disant « Oh non, je ne saurais. » Enfin, m'en voilà quitte. Me voilà, oh, non pas consolé, mais du moins assez calme. À force de pleurer, on tarit les larmes. Je venais de prendre un peu de nourriture, on me caressait beaucoup, et insensiblement, cette désolation à laquelle je m'étais abandonné se relâcha, et de l'affliction, je tombais dans la tristesse. Je ne pleurais plus. Je me mis à rêver. Mais de quelle part me vient le coup qui me frappe, me disais-je. Que pensera là-dessus Madame de Mirand? Que fera-t-elle? N'est-ce point cette parente de mauvais augure que j'ai vue à mon couvent, qui est cause de ce qui m'arrive? Mais comment s'y est-elle prise? Madame de Phare entre-t-elle pas dans ce complot? Et quel dessein a-t-on? Ma mère ne me secourra-t-elle point? Découvrira-t-elle où je suis? Valeville pourra-t-il se résoudre à me perdre? Ne le gagnera-t-on pas lui-même? Ne lui persuadera-t-on pas de m'abandonner? Madame de Mirand n'a-t-elle consenti à rien, ou bien ne se rendra-t-elle pas à tout ce qu'on dira contre moi? Ils me verront plus tous deux. On dit que l'autorité s'en mêle, mais mon histoire deviendra publique. Oh mon Dieu, il n'y aura plus de Valeville pour moi, et peut-être plus de mère. C'était ainsi que je m'entretenais. Les religieuses qui m'avaient reçu n'étaient plus avec moi, mais la cloche les avait appelées au cœur. Une sœur converse me tenait compagnie et disait son chapelet pendant que je m'occupais de ces douloureuses réflexions que j'adoucissais quelquefois de pensées plus consolantes. Ma mère m'aime tant, c'est un si bon cœur. Elle en a été jusqu'ici si inébranlable. J'ai reçu tant de témoignages de sa fermeté. Est-il possible qu'elle change jamais? Que ne m'a-t-elle pas dit encore la dernière fois qu'elle m'a vue? Je veux finir mes jours avec toi. Je ne saurais plus me passer de ma fille. Et puis Valeville est un si honnête homme, une âme si tendre, si généreuse. Ah, Seigneur, que de détresse! Mais qu'est-ce que tout cela deviendra? C'était par là où je finissais, et c'était en effet tout ce que je pouvais dire. Au soupir que je poussais, la bonne sœur converse, tout en continuant son chapelet sans parler, levait quelquefois les épaules de cet air qui signifie qu'on plaint les gens et qu'ils nous font quelquefois compassion. Quelquefois aussi, elle interrompait ses prières et me disait « Eh mon bon Jésus, ayez pitié de nous, hélas! Mademoiselle, que Dieu vous console et vous soit en aide !» Les religieuses revinrent me trouver. « Eh bien, qu'est-ce ? » me dirent-elles. « Sommes-nous un peu plus tranquilles ?»« Non mais ça, vous n'avez pas vu notre jardin, il est fort beau. » Madame nous a dit de vous y mener. Venez y faire un tour. La promenade dissipe, cela réjouit. Nous avons les plus belles allées du monde, et puis nous irons voir Madame qui est levée. Comme il vous plaira, mesdames, répondis-je, et je les y suivis. Nous nous y promenâmes environ 3/4 d'heure. Ensuite, nous nous rendîmes dans l'appartement de l'abbesse. Mais ces religieuses n'y restèrent qu'un instant avec moi, et se retirèrent insensiblement l'une après l'autre. Cette abbesse était âgée, d'une grande naissance, et me paraît avoir été belle fille. Je n'ai rien vu de si serein, de si posé, et en même temps de si grave que cette physionomie-là. Je viens de vous dire qu'elle était âgée, mais on ne remarquait pas cela tout d'un coup. C'était de ces visages qui ont l'air plus anciens que vieux. On dirait que le temps les ménage, que les années ne s'y sont point appesanties, qu'elles n'y ont fait que glisser, aussi n'y ont-elles laissé que des rides douces et légères. Ajoutez à tout ce que je dis là, je ne sais quel air de dignité ou de prudomie monacale, et vous pourrez vous représenter l'abbesse en question, qui était grande et d'une propreté exquise. Imaginez-vous quelque chose de simple, mais d'extrêmement net et d'arrangé, qui rejaillit sur l'âme et qui est comme une image de sa pureté, de sa paix, de sa satisfaction et de la sagesse de ses pensées. Bien que je fus seul avec elle, cette dame, « Mademoiselle, asseyez-vous, je vous prie, me dit-elle. » Je pris donc un siège. « Vous me l'avez bien dit, ajouta-t-elle, qu'on se prévient tout d'un coup en votre faveur. Il n'est pas possible, avec l'air de douceur que vous avez, que vous soyez extrêmement raisonnable. Toutes mes religieuses sont enchantées de vous. Dites-moi, comment vous trouvez-vous ici ?»« Hélas, madame, lui répondis-je, je m'y trouverais fort bien si j'y étais venu de mon plein gré. Mais je n'y suis encore que fort étonné de m'y voir. » Et fort en peine de savoir pourquoi on m'y a mise. Mais, me repartit-elle, non, devinez-vous point la raison? Ne soupçonnez-vous point tout ce qui peut en être cause? Non, madame, repris-je, je n'ai rien fait ni de mal ni d'injure à personne. Eh bien donc, je vais donc vous apprendre de quoi il s'agit, me répondit-elle. Ou du moins, ce qu'on m'a dit là-dessus, et ce que je me suis chargé de vous dire à vous-même. Il y a un homme dans le monde, homme de condition très riche, qui appartient à une famille des plus considérables, et qui veut vous épouser. Et toute cette famille en est alarmée, et c'est pour l'en empêcher qu'on n'a que devoir vous soustraire à sa vue. Non pas que vous soyez une fille très sage et très vertueuse, de ce côté-là, on vous rend pleine justice. Ce n'est pas là-dessus qu'on vous attaque. C'est seulement pour une naissance qu'on ne connaît point et dont vous savez tout le malheur. Ma fille, vous avez affaire à des parents puissants qui ne souffriront point un pareil mariage. S'il fallait que du mérite, vous auriez lieu d'espérer que vous leur conviendriez bien mieux qu'une autre. Mais on ne se contente pas de cela dans le monde. Tout estimable que vous êtes, ils n'en rougeraient pas moins de vous voir entrer dans leur alliance. Vos bonnes qualités ne rendraient votre mari pas plus excusable. On ne lui pardonnerait jamais une épouse comme vous. Ce serait un homme perdu dans l'estime publique. Oui, j'avoue qu'il est fâcheux que le monde pense ainsi. Mais dans le fond, on n'a pas de tort. La différence des conditions est une chose nécessaire dans la vie. Et elle ne subsisterait plus, il n'y aurait plus d'ordre si on permettait des unions aussi inégales que ne serait la vôtre. On peut dire même aussi monstrueuse, ma fille. Car entre nous, et pour vous aider à entendre raison, songez un peu à l'état où Dieu a permis que vous soyez, et à toutes ces circonstances. Examinez ce que vous êtes, et ce qu'est celui qui veut vous épouser, mettez-vous à la place des parents. Je ne vous demande que cette petite réflexion-là. Eh, madame, madame, et moi, je vous le demande quartier là-dessus, lui dis-je, de ce ton naïf et hardi qu'on a quelquefois dans une grande douleur. Je vous assure que c'est un sujet sur lequel il ne me reste plus de réflexions à faire, non plus que d'humiliations à essuyer. Je ne sais que trop ce que je suis. Je ne l'ai caché à personne, on peut s'en informer. Je l'ai dit à tous ceux que le hasard m'a fait connaître. Je l'ai dit à M. de Valville, qui est celui dont vous parlez. Je l'ai dit à Mme de Mirand, sa mère. Je lui ai représenté toutes les misères de ma vie, de la manière la plus forte et la plus capable de les rebuter. Je leur en ai fait le portrait le plus dégoûtant. J'y ai tout mis, madame, et la fortune où je suis tombé dès le berceau, au moyen de laquelle je n'appartiens à personne, et la compassion que les inconnus ont eue de moi dans une route où mon père et ma mère étaient étendus morts, la charité avec laquelle ils me prirent chez eux, l'éducation qu'ils m'ont donnée dans un village, et puis la pauvreté où je suis resté après leur mort, l'abandon où je me suis vu, les secours que j'ai reçus d'un honnête homme qui vient de mourir aussi, ou bien, si l'on veut, les aumônes qu'il m'a faites, car c'est ainsi que je me suis expliqué pour m'humilier davantage, pour mieux peindre mon indigence, pour rendre M. de Valville le plus honteux de l'amour qu'il avait pour moi. Mais que veut-on de plus? Je me suis point épargné. J'en ai peut-être plus dit qu'il y en a, de peur qu'on ne s'y trompe pas. Il n'y a peut-être personne qui eut la cruauté de me traiter aussi mal que je l'ai fait moi-même. Et je ne comprends pas, après tout ce que j'ai avoué, comment Madame de Miron et M. de Valville ne m'ont pas laissé là. Je devais les faire fuir. Je défierais qu'on imaginât une personne plus chétive que je me le suis rendue. Ainsi, il n'y a plus rien à m'objecter à cet égard. On ne saurait me mettre plus bas, et les répétitions ne serviraient plus qu'à accabler une fille si affligée, si à plaindre, si infortunée que vous, madame, qui êtes abbesse et religieuse, vous n'avez point d'autre parti à prendre que d'avoir pitié de moi, et que de refuser d'être de moitié avec les personnes qui me persécutent et qui me font un crime d'un amour dont il n'a pas tenu à moi de guérir M. de Valville, et qui est plutôt un effet de la permission de Dieu que de mon adresse et de ma volonté. Si les hommes sont si glorieux, ce n'est pas à une dame aussi pieuse et aussi charitable que vous à approuver leur mauvaise gloire. Et s'il est vrai aussi que j'ai beaucoup de mérite, ce que je n'ai pas la hardiesse de croire, vous devez donc trouver que j'ai tout ce qu'il faut. Monsieur de Vadeville, qui est un homme du monde, ne m'en a pas demandé davantage. Il s'est bien contenté de cela. Madame de Miron, qui est généralement aimée et estimée, qui a un rang à conserver aussi bien que ceux qui me nuisent, et qui n'aimerait pas plus à rougir d'eux, s'en est contentée. De même, quoique j'ai fait tout mon possible afin qu'elle ne se contentât point. Elle le sait. Cependant, la mère et le fils pensent comme l'autre, l'un. Peut-on que je leur résiste, que je refuse ce qu'ils m'offrent, surtout quand je leur ai moi-même donné tout mon cœur, et que ce n'est ni leur richesse, ni leur rang que j'estime, mais seulement leur tendresse? D'ailleurs, ne sont-ils pas les maîtres? Ne savent-ils pas ce qu'ils font? Les ai-je trompés? Ne sais-je pas que c'est trop d'honneur pour moi? On ne m'apprendra rien là-dessus, madame. Ainsi, au nom de Dieu, n'en parlons plus. Je suis la dernière de toutes les créatures de la terre en essence. Je ne l'ignore pas. En voilà assez. Ayez seulement la bonté de me dire à présent qui sont les gens qui m'ont mis ici et qu'ils prétendent avec la violence avec laquelle ils en usent aujourd'hui contre moi. « Ma chère enfant, me répondit l'abbesse en me regardant avec amitié, à la place de Madame de Miron, je crois que je penserai comme elle. J'entre tout à fait dans vos raisons, mais ne le dites pas. » À ce discours, je lui pris la main que je baisai, et cette action parut lui plaire et l'attendrir. « Je suis bien éloignée de vouloir vous chagriner, ma fille, continua-t-elle. Je vous ai parlé, et comme vous venez de l'entendre, qu'à cause qu'on m'en a prié. Et avant que vous vinssiez, je ne vous imaginais pas tel que vous êtes. Oh, il s'en faut de beaucoup. Je m'attendais à vous trouver jolie et peut-être spirituelle. Mais ce n'était ni l'esprit, ni les grâces, et encore moins le caractère que je me figurais. Vous êtes digne de la tendresse de Madame de Miron et de sa complaisance pour les sentiments de son fils. En vérité, très digne. Oh, je ne connais point cette dame, mais ce qu'elle a fait pour vous me donne une grande opinion d'elle, et elle ne peut être elle-même qu'une femme d'un très grand mérite. Mais que tout ce que je vous dis là ne vous passe point, je vous le répète, ajouta-t-elle en me voyant pleurer de reconnaissance. Et venons au reste. C'est par un ordre supérieur que vous êtes ici. Et voici ce que je suis encore chargé de vous proposer. C'est de vous déterminer où à rester dans notre maison, c'est-à-dire à y prendre le voile, ou à consentir à un autre mariage. Je souhaiterais que le premier parti vous plût, je vous l'avoue sincèrement, et je le souhaiterais autant pour vous que pour moi, à qui l'acquisition d'une fille comme vous ferait grand plaisir. Mais d'où vient aussi pour vous? C'est que vous êtes belle et que dans le monde, avec la beauté que vous avez, et quelque vertueuse qu'on soit, on est toujours exposé soi-même à force d'exposer les autres, et qu'enfin vous seriez ici en toute sûreté, et pour vous, et pour eux. Quel plus grand avantage d'ailleurs peut-on tirer de sa beauté que de la consacrer à Dieu, qui vous l'a donnée, et de qui vous l'éprouverez, ni la fidélité ni le mépris que vous avez à craindre de la part des hommes et de votre mari même. C'est souvent un malheur que d'être belle, un malheur pour le temps, un malheur pour l'éternité. Vous croirez que je vous parle en religieuse, point du tout. Je vous parle le langage de la raison, un langage dont la vérité se justifie tous les jours et que la plus saine partie des gens du siècle vous tiendrait eux-mêmes. Mais je ne vous le dis qu'en passant, et je n'appuie point là-dessus. Voilà donc les deux choses que j'ai promis de vous proposer aujourd'hui, et dès ce soir, on doit savoir votre réponse. Consultez-vous, ma chère enfant. Voyez ce qu'il faut que je dise, et quelles paroles je donnerai pour vous, car on demande votre parole sur l'une ou sur l'autre de ces deux parties, sous peine d'être dès demain transféré ailleurs, et même bien loin de Paris, si vous ne répondiez pas. Ainsi, dites-moi, voulez-vous être religieuse, ou aimez-vous mieux être mariée ? Hélas, ma mère, ni l'un ni l'autre, repartis-je. Je ne suis pas en état de m'offrir à Dieu de la manière dont on me le propose, et vous ne me le conseilleriez pas vous-même. Le cœur, comme je l'ai, plein d'une tendresse, ou plutôt d'une passion, qui n'a à la vérité que des vues légitimes, et qui, je crois, est innocente aujourd'hui, mais qui cesserait de l'être dès que je serais engagé par des vœux. Aussi ne m'engagerais-je point. Oh, le ciel m'en préserve. Je ne suis pas assez heureuse pour le pouvoir. Et à l'égard du mariage auquel on prétend que je consente, qu'on me laisse du temps pour réfléchir là-dessus. « On ne vous en laisse point, ma fille, » me répondit l'abbesse. Et c'est une affaire qu'on veut se hâter de conclure. Vous devez être marié en très peu de jours, ou vous résoudre à sortir de Paris pour être conduite, on ne m'a pas dit où, et si vous m'en croyez, mon avis serait que vous promissiez de prendre le mari en question, à condition que vous le verrez auparavant, que vous saurez quel homme c'est, de quel part il vient, quelle est sa fortune, que vous paierez même à ceux qui veulent que vous l'épousiez. Ce sont ces choses qu'on ne peut, ce me semble, vous refuser. Oh, quelle envie qu'on ait d'aller vite. Vous y gagnerez du temps, et que sait on ce qui peut arriver dans l'intervalle. Vous avez raison, madame, lui dis-je en soupirant. C'est là cependant une bien petite ressource, mais l'importe. Il n'y a donc qu'à dire que je consens au mariage. Pourvu qu'on m'accorde tout ce que vous venez de dire, peut-être quelque événement favorable me délivrera-t-il de la persécution que j'éprouve. Nous en étions là quand une sœur avertit l'abbesse qu'on l'attendait à son parloir. « Ce pourrait bien être de vous dont il est question, ma fille, » me dit-elle. « Oh, je soupçonne que c'est votre réponse qu'on vient savoir. En tout cas, nous nous reverrons tantôt. » J'ai de bonnes intentions pour vous, ma chère enfant, soyez-en persuadée. » Elle me quitta là-dessus, et je revins dans la chambre où j'avais dîné. J'y entrais le cœur mort, oh, je suis sûr que je n'étais pas reconnaissable. J'avais l'esprit bouleversé. C'était de ces accablements où l'on est comme imbécile. Je fus bien une heure dans cet état. J'entendis ensuite qu'on ouvrait ma porte. On entra. Je regardais qui c'était, ou plutôt j'ouvrais les yeux et ne disais mot. On me parlait, je n'entendais pas. Hein, quoi? Que voulez-vous? Voilà tout ce qu'on pouvait tirer de moi. Enfin, on me répéta si souvent que l'abbesse me demandait que je me levais pour aller la trouver. Je ne me trompais pas, me dit-elle, d'aussi loin qu'elle m'aperçut. Oui, c'est de vous dont il s'agissait, et j'augure bien de ce qui va se passer. J'ai dit que vous acceptiez le parti du mariage, et demain, entre 11h et midi, on enverra un carrosse qui vous mènera dans une maison où vous verrez, et le mari qu'on vous destine et les personnes qui vous proposent. Oh, j'ai tâché, par tous les discours que j'ai tenus, de vous procurer les égards que vous méritez, et j'espère qu'on en aura pour vous. Mettez votre confiance en Dieu, ma fille. Tous les événements dépendent de sa providence, et si vous avez recours à lui, il ne vous abandonnera pas. Je vous aurais offert volontiers d'envoyer avertir Madame de Miran que vous êtes ici, mais quelque plaisir que je le fisse de vous obliger, c'est un service qui ne m'est pas permis de vous rendre. On a exigé que je ne me mêlerai de rien. J'en ai moi-même donné parole, et je suis très fâché. » Une religieuse qui vint alors abrégea notre entretien, et je retournai dans le jardin, un peu moins abattu que je n'étais allé en arrivant chez elle. Je vis un peu plus clair dans mes pensées. Je m'arrangeais sur la conduite que je tiendrais dans cette maison où l'on devait me mener le lendemain. Je méditais ce que je dirais, et je trouvais mes raisons si fortes qu'il me semblait impossible qu'on ne s'y rendît pas, pour peu qu'on voulût bien m'écouter. Il est vrai que les petits arrangements qu'on prend d'avance sont assez souvent inutiles, et que c'est la manière dont les choses tournent qui décide de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait en pareille occasion. Mais ces sortes de préparations vous amusent et vous soulagent. On se flatte de gagner son procès pendant qu'on fait son point billé. Cela est naturel, et le temps se passe. Il me venait encore d'autres idées. Du couvent à la maison où le montrait se faire, il y aura du chemin, me disais-je. Eh mon Dieu, si vous permettiez que Valville ou Madame de Miran rencontrasse le carrosse où je serais, il ne manquerait pas de crier et qu'on arrêtât. Et si ceux qui me mèneront ne le voulaient pas, de mon côté je crierais, je me débattrais, je ferais du bruit. Et au pis-aller, mon amant et ma mère pourraient me suivre et voir où l'on me conduira. Voyez, je vous prie, à quoi l'on va penser dans de telles certaines situations. Il n'y a point d'accident pour ou contre que l'on imagine, point de chimère agréable ou fâcheuse qu'on ne se forge. Aussi, en supposant même que je rencontrasse ma mère ou son fils, était-il bien sûr qu'il crierait qu'on arrêta? Pensais-je en moi-même. Ne fermeront-ils pas les yeux? Ne font-ils point un semblant de ne pas me voir? Eh, Seigneur, s'ils avaient donné les mains à mon enlèvement, et si la famille, à force de représentations, de prières, de reproches, leur avait persuadé de se dédire. Les maximes ou les usages du monde me sont si contraires, les grands sentiments se soutiennent si difficilement, et le misérable orgueil des hommes veut qu'on fasse si peu de cas de moi. Il est si scandalisé de ma misère. Et là-dessus, je recommençais à pleurer, et un moment après, à me flatter. Mais j'oubliais un article de mon récit. C'est qu'en entrant sur le soir dans ma chambre, pour sortir du jardin où je m'étais promené, je vis mon coffre, car je n'avais point d'autre meuble, qui était sur une chaise, et qu'on avait apporté de mon autre couvent. Vous le sauriez croire de quel nouveau trouble il me frappa. Mon enlèvement m'avait, je pense, moins consterné, et les bras m'en tombèrent. « Comment ? » m'écriai-je. « Ceci est donc bien sérieux ?» Car jusqu'alors, je n'avais pas fait réflexion que mes hardes me manquaient, et quand j'y aurais songé, je n'aurais eu garde de les demander. Il n'y a point d'extrémité que je n'eusse plutôt soufferte. Quoi qu'il en soit, dès que je les vis, mon malheur me parut sans retour. M'apporter jusqu'à mon coffret, il n'y a donc plus de ressources. Vous eussiez dit que tout le reste n'était encore rien en comparaison de cela. Ce malheureux coffre en signifiait 100 fois l'avantage. Il décidait et il m'accabla. Ce fut un trait de rigueur qui me laissa sans réplique. « Allons, me dis-je. Voilà ce qui est fait, tout le monde est d'accord contre moi. C'est à l'adieu éternel qu'on me donne. Mais il est certain que ma mère et son fils sont de la partie. Demandez-moi pourquoi je tirais si affirmativement cette conséquence. Oh, mais il faudrait 20 pages pour vous l'expliquer. Ce n'était pas ma raison, c'était ma douleur qui concluait ainsi. Dans les circonstances où j'étais, il y a des choses qui ne sont point importantes en elles-mêmes, mais qui sont tristes à voir au premier coup d'œil, qui ont une apparence effrayante, et c'est par là qu'on les saisit, quand l'âme est déjà disposée à la crainte. On m'apporte mes hardes, on ne veut donc plus de moi, on rompt donc tout commerce. Il est donc résolu qu'on ne me verra plus. Voilà de quoi cela avait l'air pour une personne déjà aussi découragée que je l'étais. Je n'aurais rien été si j'avais raisonné. Qu'on m'enlève d'une maison pour me mettre dans une autre, il fallait bien que mes hardes me suivissent. Le transport qu'on en faisait n'était qu'une conséquence toute simple de ce qui m'arrivait. Voilà ce que j'aurais pensé si j'avais été de sang-froid. Quoi qu'il en soit, je passai une nuit cruelle, et le lendemain, le cœur me battit toute la matinée. Ce carrosse que la baisse m'avait annoncé fut dans la cour précisément à l'heure qu'elle m'avait dite. On vint m'avertir, je descendis tremblante, et le premier objet qui s'offrit à mes yeux quand on m'ouvrit la porte, ce fut cette femme qui m'avait enlevé de mon couvent pour me mener dans celui-ci. Je lui fis un petit salut assez indifférent. « Bonjour, mademoiselle Marianne. Ah, vous vous passeriez bien de me revoir, me dit-elle, mais ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Au surplus, je pense que vous n'aurez pas lieu d'être mécontente de tout ceci, et je voudrais bien être à votre place, moi qui vous parle à la vérité. Je ne suis ni si jeune, ni si jolie que vous, et c'est ce qui fait la différence. » Et nous étions déjà dans le carrosse pendant qu'elle me parlait ainsi. « Vous savez donc quelque chose de ce qui me regarde ?» lui dis-je. « Mais oui, me répondit-elle. J'en ai entendu dire quelques mots par-ci, par-là. Il s'agit d'un homme d'importance qu'on ne veut pas que vous épousiez, n'est-ce pas ?» « Oui, à peu près, repris-je. Eh bien, me répartit-elle, ôtez que vous êtes peut-être entêté de ce jeune homme qu'on vous refuse. Eh bien, par ma foi, je ne trouve point que vous ayez tant à vous plaindre. On dit que vous n'avez ni père ni mère, et qu'on ne sait ni d'où vous venez ni qui vous êtes. On ne vous en fait point d'un reproche, ce n'est pas de votre faute. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on devient avec cela ? On reste sur le pavé. On vous en montrera 1000 comme vous qui y sont. Cependant, il n'est ni plus ni moins pour vous. On vous ôte un amant qui est trop grand seigneur pour être votre mari. Mais en revanche, on vous en donne un autre que vous n'auriez jamais eu. et dont une belle et bonne fille de bourgeois s'accommoderait à merveille. Oh, je n'en trouverais pas un pareil, moi qui ai père et mère, oncle et tante, et tous les parents, tous les cousins du monde. Et il faut que vous soyez né, coiffé. Je vous en parle savamment au reste, car j'ai vu le mari dont il s'agit. C'est un jeune homme de 27 à 28 ans, vraiment fort joli garçon, fort bien fait. Oh, je ne sais pas son bien, mais il a de si bonnes protections qu'il n'en a que faire, il ira loin. Je ne dis pas qu'à son tour, il ne soit fort heureux de vous avoir, mais ça n'empêche pas que ce soit une fortune et un très bon établissement pour vous. Mais enfin, nous verrons, lui répondis-je, sans vouloir disputer avec elle. Mais pourriez-vous m'apprendre qui sont les gens chez qui vous me menez et à qui je vais parler ? Oh, reprit-elle, ce sont des personnes de grande importance. Vous êtes en de bonnes mains. Nous allons chez Madame de, qui est une parente de la famille de votre premier amant. Or, cette dame, qu'elle me nommait, n'était, s'il vous plaît, que la femme du ministre. Et je devais paraître devant le ministre même, ou pour mieux dire, j'allais chez lui. Jugez à quelle forte partie j'avais affaire, et s'il me restait la moindre lueur d'espérance dans ma disgrâce. Je vous ai dit que j'avais imaginé que Madame de Miran ou son fils pourraient me rencontrer en chemin. Mais quand même ce hasard-là me serait arrivé, il me serait devenu bien inutile par la précaution que prit la femme qui avait apparemment ses ordres. Il y avait des rideaux tirés sur les glaces du carrosse, de façon que je ne pouvais ni voir, ni être vu. Nous arrivâmes et on nous arrêta à une porte de derrière qui donnait dans un vaste jardin que nous traversâmes et dans une allée duquel ma conductrice me laissa assis sur un banc. En attendant, me dit-elle, qu'il eût été savoir s'il était temps que je me présentasse. À peine y avait-il un demi-quart d'heure que j'étais seul avec que je vis venir une femme de 45 à 50 ans, qui me parut être de la maison, et qui, en m'abordant d'un air de politesse subalterne et domestique, me dit « Ne vous impatientez pas, mademoiselle. Monsieur De, et ce fut le ministre qu'elle me nomma, est enfermé avec quelqu'un et on viendra vous chercher dès qu'il aura fait. » Alors, par une allée qui rentrait dans celle où nous étions, vint un jeune homme de 28 à 30 ans, d'une figure assez passable, vêtu fort uniment, mais avec propreté, qui nous salua et qui feignit aussitôt de se retirer. « Monsieur, monsieur !» lui cria cette femme qui m'avait abordé. « Mademoiselle attend qu'on la vienne prendre. » Je n'ai pas le temps de rester avec elle. Tenez-lui compagnie, je vous prie. La commission est bien agréable, comme vous voyez. Aussi vous suis-je bien obligé de me la donner, reprit-il en s'approchant d'un air plus révérencieux que galant. Ah ça, dit la femme, je vous laisse donc, mademoiselle. C'est un de nos amis, au moins, ajouta-t-elle, sans quoi je m'en irai pas, et son entretien vaut bien le mien. Et là-dessus, elle partit. Mais qu'est-ce que tout cela signifie, me dis-je en moi-même, et pourquoi cette femme me laisse-t-elle? Ce jeune homme parut d'abord assez interdit, et il débuta par s'asseoir à côté de moi, après m'avoir fait encore une révérence, à laquelle je répondis avec beaucoup de froideur. Voici, dit-il, le plus beau temps du monde, et cette allée est si charmante. C'est comme si on était à la campagne. Oui, repartis-je. Et puis la conversation tomba. Je m'embarrassais guère de ce qu'elle deviendrait. Apparemment qu'il cherchait comment il la relèverait. Et le seul moyen dont il s'avisa pour cela, ce fut de tirer sa tabatière, et puis me la présentant ouverte. « Mademoiselle en eût-elle ? » me dit-il. « Non, monsieur, répondis-je. Et le voilà encore à ne savoir que dire. Les monosyllabes dont j'usais pour parler comme lui n'étaient d'aucune ressource. Comment faire? Je toussais. Oh, mademoiselle était enrhumée. Oh, ce temps-ci cause beaucoup de rhume. Hier, il faisait froid. Aujourd'hui, il fait chaud. Et ce changement de temps n'accommode pas la santé. Cela est vrai, lui dis-je. Pour moi, reprit-il quelque temps qu'il fasse, je ne suis point sujette au rhume. Je ne connais pas ma poitrine. Rien ne m'incommode. Tant mieux, lui dis-je. Oh, quant à vous, mademoiselle, me repartit-il, enrhumé ou non, vous n'en avez pas moins le meilleur visage du monde, aussi bien que le plus beau. Monsieur, vous êtes bien honnête, lui répondis-je. Oh, c'est la vérité. Paris est bien grand, reprit-il, mais il n'y a certainement pas beaucoup de personnes qui puissent se vanter d'être faites comme mademoiselle, ni d'avoir tant de grâce. Monsieur, lui dis-je, voilà des compliments que je ne mérite point. Je ne me pique pas de beauté. Il n'est pas question de moi, s'il vous plaît. Oh, mademoiselle, je dis ce que je vois. Il n'y a personne à ma place qui ne vous en dit autant. Et davantage, reprit-il. Vous ne devez pas vous fâcher d'un discours qui vous est impossible d'empêcher, à moins que vous ne vous cachiez. Et ce serait grand dommage, car il est certain qu'il n'y a point de dame qui soit si digne d'être considérée. Or, moi en particulier, je me tiens bien heureux de vous avoir vu, et encore plus heureux si cette occasion, qui m'est si favorable, me procurait le bonheur de vous revoir et de vous présenter mes services. À moi, monsieur, qui ne vous trouve ici que par hasard et qui, suivant toute apparence, ne vous retrouverai de ma vie. Et pourquoi de votre vie, mademoiselle, reprit-il. C'est selon votre volonté, cela dépend de vous. Et si ma personne ne vous était pas désagréable, voici une rencontre qui pourrait avoir bien des suites. Il ne tiendra qu'à vous que nous ayons fait connaissance ensemble pour toujours. Et pour ce qui est de moi, il n'y a pas à douter que je ne le souhaite. Il n'y a rien à quoi j'aspire tant, c'est que la sincère inclination que je me sens pour vous m'engage à vous dire. Il est vrai qu'il n'y a qu'un moment que j'ai l'honneur de voir, mademoiselle. Et vous me direz que c'est avoir le cœur pris bien promptement, mais c'est le mérite et la physionomie des gens qui règlent cela. Certainement, je ne m'attendais pas à tant de charme. Et puisque nous sommes sur ce sujet, je prendrai la liberté de vous assurer que tout mon désir est d'être assez fortuné pour vous convenir et pour obtenir la possession d'une aussi charmante personne que mademoiselle. Comment, monsieur, repris-je, négligeant de répondre à d'aussi pesantes et d'aussi grossières protestations de tendresse. Vous ne vous attendiez pas, dites-vous, à tant de charme? Est-ce que vous avez su que vous me verriez ici? En étiez-vous averti? Oui, mademoiselle, me repartit-il. Oh, ce n'est pas la peine de vous tenir plus longtemps en suspens. C'est de moi dont mademoiselle Catos vous a entretenu en vous menant. Elle vient me le dire. Quoi ? M'écriai-je encore. C'est donc vous qui êtes le mari qu'on me propose, monsieur ?
C'est justement votre serviteur, me dit-il. Ainsi, vous voyez bien que j'ai raison quand je dis que notre connaissance durera longtemps, si vous en êtes d'avis. Oui, c'était tout exprès que je me promenais le jardin, et on m'a laissé avec vous qu'afin de vous procurer le moyen de nous entretenir. On m'avait bien promis que je verrais une très aimable demoiselle, mais j'en trouve encore plus qu'on ne m'en a dit. D'où il arrive que ce sera avec un tendre amour que je me marierai aujourd'hui, et non pas par raison et par intérêt, comme je le croyais. Oui, mademoiselle, c'est véritablement que je vous aime. Je suis enchanté des perfections que je rencontre en vous. Je n'en ai point vu de pareilles. Et c'est ce qui m'a d'abord embarrassé en vous parlant, car, quoique j'ai bien fréquenté des demoiselles, je n'ai encore été amoureux d'aucune. Aussi êtes-vous plus gracieuse que toutes les autres. Et c'est à vous d'avoir ce que vous voulez et qu'il en soit. Vous êtes bien mon fait, ou il n'y a plus qu'à savoir si je suis le vôtre. Au surplus, mademoiselle, vous pouvez vous enquêter de mon humeur et de mon caractère. Je suis sûr que vous en ferez de bons rapports. Je ne suis ni joueur, ni débauché. Je me vante d'être rangé. Je ne songe qu'à faire mon chemin à cette heure que je suis garçon. Et je ne serai pas pis quand je serai en ménage. Au contraire, une femme et des enfants vous rendent encore meilleur ménager. Pour ce qui est de mes facultés présentes, elles ne sont pas bonnement bien considérables. Mon père a un peu mangé, un peu trop aimé la joie de ce qui enrichit par une famille. D'ailleurs, j'ai un frère et une sœur dont je suis l'aîné à la vérité, mais c'est toujours trois parts au lieu d'une. On me donnera pourtant quelque chose d'avance en faveur de notre mariage, mais ce n'est pas cela que je regarde. Le principal est qu'on me gratifie à présent d'une bonne place et qu'on me va mettre dans les affaires dès que notre contrat sera signé. Sans compter que, depuis 3 ans, je n'ai pas laissé que de faire quelques petits épargnes sur les appointements d'un petit emploi que j'ai et qu'on me change contre un plus fort. Si, comme vous voyez, nous serons bientôt à notre aise avec la protection que j'ai. C'est ce que vous saurez de la propre bouche de Monsieur De, il parlait du ministre. Car je ne vous dis rien que de vrai, ma chère demoiselle, ajouta-t-il en me prenant la main qu'il voulut baiser. Le cœur m'en souleva. Doucement, lui dis-je avec un dégoût que je ne pus dissimuler. Point de geste, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore convenus de nos faits. Qui êtes-vous, monsieur ? Qui je suis, mademoiselle, me répondit-il d'un air confus et pourtant piqué. Bien, j'ai l'honneur d'être le fils du père nourricier de Madame De. Il me nomma la femme du ministre. Ainsi, elle est ma sœur de lait, rien que cela. Ma mère a une pension d'elle. Ma sœur la sert actuellement en qualité de première fille de chambre. Elle nous aime tous et elle veut avoir soin de notre fortune. Voilà qui je suis, mademoiselle. Y a-t-il rien là-dedans qui vous choque? Est-ce que le parti n'est pas de votre goût? Monsieur, lui dis-je, je ne songe guère à me marier. C'est peut-être que je vous déplais, me repartit-il. Non, non, lui dis-je, mais si j'épouse jamais quelqu'un, je veux du moins l'aimer. Je ne vous aime pas encore. Nous verrons dans la suite. Tant pis, c'est l'effet de mon malheur, me répondit-il. Oh, ce n'est pas que je sois en peine de trouver une femme. Il y a encore plus de 8 jours qu'on m'en parla d'une qui aura beaucoup de bien d'une tante et qui d'ailleurs a père et mère. Et moi, monsieur, lui dis-je, je suis orpheline et vous me faites trop d'honneur. Oh, je ne dis pas cela, mademoiselle, ce n'est pas à quoi je songe. Mais véritablement, je ne me serais pas imaginé que vous eussiez tant de mépris pour moi, me dit-il. J'aurais cru que vous y prendriez un peu plus garde, eu égard à l'occurrence où vous êtes, qui est naturellement assez fâcheuse, et par des plus favorables à votre établissement. Excusez si je vous en parle, mais c'est par bonne amitié et en manière de conseil. Il y a des occasions qu'il ne faut pas laisser aller, principalement quand on a affaire à des gens qui n'y regardent pas de si près et qui ne font pas plus les difficiles que moi. En cas de mariage, il n'y a quoi qui ne soit bien aise d'entrer dans une famille. Moi, je m'en passe. C'est ce qu'il y a à considérer. Ah, monsieur, lui dis-je avec un geste d'indignation, vous me tenez là un étrange discours et votre amour n'est guère poli. « Laissons cela, je vous prie. »« Pardi, mademoiselle, comme il vous plaira, » me répondit-il en se levant. « Et avec votre permission, il n'y a pas de quoi être si fier. Si ce n'est pas vous, je suis bien mortifié, mais ce sera une autre. On a cru vous faire plaisir et point de tort, à l'exception de votre beauté, que je ne discute pas, et qui m'a donné dans la vue, je ne sais pas qui perdra le plus de nous deux. Je n'ai chicané sur rien, quoique tout vous manque. Je vous aurais estimé, honoré, chéri, ni plus ni moins. Et dès que cela ne vous accommode pas, je prends congé de mademoiselle, et je reste bien son très humble serviteur. Monsieur, lui dis-je, je suis votre servante. Là-dessus, il fit quelques pas pour s'en aller, et puis revenant à moi. Au surplus, mademoiselle, je songe que vous êtes seule, et si en attendant qu'on vienne vous chercher, ma compagnie peut vous être bonne à quelque chose, je me donnerai l'honneur de vous l'offrir. Je vous en rends mille grâces, monsieur, lui répondis-je, la larme à l'œil. Non pas de ce qu'il me quittait, comme vous pouvez penser, mais de la douleur de me voir livré à d'aussi mortifiantes aventures. Ce n'est peut-être pas moi qui ai cause que vous pleurez, mademoiselle, ajouta-t-il. Je n'ai rien dit qui soit capable de vous chagriner. Non, bon monsieur, repris-je, je ne me plains point de vous, et ce n'est pas la peine que vous restiez, car voici la personne qui m'a amené ici et qui arrive. En effet, je voyais venir de loin mademoiselle Catos, c'était ainsi qu'il l'avait appelée. Et soit qu'il ne voulût pas la voir pour témoin du peu d'accueil que je faisais à son amour, il se retira avant qu'elle m'abordât, et prit même un chemin différent du sien pour ne pas la rencontrer. « Pourquoi donc monsieur Villot quitte-t-il ? » me dit cette femme en m'abordant. « Est-ce que vous l'avez renvoyé ?»« Non, repris-je. C'est que vous veniez et que nous n'avons plus rien à nous dire. »« Eh bien, repartit mademoiselle Marianne, n'est-il pas vrai que c'est un garçon bien fait ? Vous ai-je trompé ? Quand vous n'auriez pas les disgrâces que vous savez, en demanderiez-vous un autre et Dieu ne vous fait-il pas une grande grâce ? Allons, partons, ajouta-t-elle. On nous attend. Je me levai sans lui répondre et je la suivis. Dieu sait dans quelle situation d'esprit. Nous traversâmes de longs appartements et nous arrivâmes dans une salle où se tenait une troupe de valets. J'y vis cependant deux personnes, dont l'une était un jeune homme de 24 à 25 ans, d'une figure fort noble, l'autre un homme plus âgé qui avait l'air d'un officier, et qui s'entretenait près d'une fenêtre. « Arrêtez un moment ici, » me dit la femme qui me conduisait. « Je vais avertir que vous êtes là. » Elle entra aussitôt dans une chambre dont elle ressortit un moment après. Mais pendant ce court espace de temps qu'elle m'avait laissé seul, le jeune homme en question avait discontinué son entretien et ne s'était attaché qu'à me regarder avec une extrême attention. Et malgré tout mon accablement, j'y pris garde. Ce sont là de ces choses qui ne nous échappent point, nous autres femmes. Dans quelque affliction que nous soyons plongés, notre vanité fait toujours ses fonctions. Elle n'est jamais en défaut, et la gloire de nos charmes est une affaire à part, dont rien ne nous distrait. J'entendis même que ce jeune homme disait à l'autre, du ton d'un homme qui affirme « Avez-vous jamais rien vu de si aimable ?» Je baissai les yeux et je détournai la tête, mais ce fut toujours une petite douceur que je ne négligeais point de goûter chemin faisant et qui n'interrompit point mes tristes pensées. Il en est de cela comme d'une fleur agréable dont on sent l'odeur en passant. « Entrons !» me dit la femme qui venait de sortir de la chambre. Je la suivis et les deux hommes entrèrent avec nous. J'y trouvai cinq ou six dames et trois messieurs, dont deux me parurent gens de robe et l'autre d'épée. Monsieur Villot, vous savez qui c'est, était assis à côté de la porte où il se tenait comme un quartier et dans une humble contenance. Oui, j'ai dit trois messieurs, mais j'en compte pas un quatrième. Quoique le principal, puisqu'il était le maître de la maison, ce que je conjecturais en le voyant sans chapeau. C'était le ministre même, et ma conductrice me le confirma. « Mademoiselle, c'est devant monsieur de que vous êtes, me dit-elle. » Et elle me le nomma. C'était un homme âgé, mais grand, d'une belle figure, de bonne mine, d'une physionomie qui vous rassurait en la voyant, qui vous calmait, qui vous remplissait de confiance, et qui était comme un gage de la bonté qu'il aurait pour vous et de la justice qu'il allait vous rendre. C'était de ses traits que le temps a moins vieilli, qu'il les a rendus respectables. Figurez-vous un visage qu'on aime à voir, sans songer à l'âge qu'il a. On se plaisait à sentir la vénération qu'il inspirait, la santé même qu'on y voyait avec quelque chose de vénérable. Elle y paraissait encore moins l'effet du tempérament que le fruit de la sagesse, de la sérénité et de la tranquillité de l'âme. Cette âme y faisait rejaillir la douceur de ses mœurs. Elle y peignait l'aimable et consolante image de ce qu'elle était. Elle l'embellissait de toutes les grâces de son caractère, et ces grâces-là n'ont point d'âge. Tel était le ministre devant qui je parus. Je ne vous parlerai point de ce qui regarde son ministère, ce serait une matière qui me passe. Je vous dirai seulement une chose que j'ai moi-même entendu dire. C'est qu'il y avait, dans sa façon de gouverner, un mérite bien particulier qui était jusqu'alors inconnu dans tous les ministres. Oh, nous en avons eu dont le nom est pour jamais consacré dans nos histoires. C'étaient de grands hommes, mais qui, durant leur ministère, avaient eu soin de tenir les esprits attentifs à leurs actions et de paraître toujours suspects d'une profonde politique. On les imaginait toujours entourés de mystères. Ils étaient bien aises qu'on attendit de grands coups, même avant qu'ils les eussent faits, que dans une affaire épineuse, on pensa qu'ils seraient habiles, même avant qu'ils le fussent. C'était là une opinion flatteuse dont ils faisaient en sorte qu'on les honorât, industrie superbe, mais que leur succès rendait à la vérité bien pardonnable. En un mot, on savait où ils allaient, mais on les voyait aller. On ignorait où tendaient leurs mouvements, mais on les voyait se remuer. Et ils se présentaient à être vus, et ils disaient « Regardez-moi !» Celui-ci, au contraire, disait-on, gouvernait à la manière des sages, dont la conduite est douce, simple, sans faste, désintéressée pour eux-mêmes, qui songent à être utiles et jamais à être vantés, qui font de grandes actions dont la seule pensée que les autres en ont besoin, et non pas à cause qu'il est glorieux de les avoir faites. Ils n'avertissent point qu'ils se feront habiles. Ils se contentent de l'être et ne remarquent même pas qu'ils l'ont été. De l'air dont ils agissent, leurs opérations les plus dignes d'estime se confondent avec leurs actions les plus ordinaires. Rien ne les en distingue en apparence. On n'a point eu de nouvelles du travail qu'elles ont coûté. C'est un génie sans ostentation qui les a conduites. Il a tout fait pour elles, et rien pour lui. D'où il arrive que ceux qui en retirent le fruit le prennent souvent qu'on le leur donne et sont plus contents que surpris. Il n'y a que les gens qui pensent qu'ils ne sont point les dupes de la simplicité du procédé de celui qui les mène. Eh bien, il en était de même à l'égard du ministre dont il est question. Fallait-il surmonter les difficultés presque insurmontables, remédier à tel inconvénient presque sans remède, procurer une gloire, un avantage, un bien nécessaire à l'État, rendre traitable un ennemi qui l'attaquait, et que sa douceur, que l'embarras des temps où il se trouvait, ou que la modestie de son ministère abusait, il faisait tout cela, mais aussi discrètement, aussi uniment, avec aussi peu d'agitation qu'il faisait tout le reste. C'étaient des mesures si paisibles, si imperceptibles. Il se souciait si peu de vous préparer à toute l'estime qu'il avait méritée qu'on eût pu oublier de le louer, malgré toutes ses actions louables. C'était comme un père de famille qui veille au bien, au repos et à la considération de ses enfants, qui les rend heureux sans leur vanter les soins qu'il se donne pour cela, parce qu'il a que faire de leur éloge. Les enfants, de leur côté, n'y prennent pas trop garde, mais ils l'aiment. Et ce caractère, une fois connu dans un ministre, est bien neuf et bien respectable. Il donne peu d'occupation aux curieux, mais beaucoup de confiance et de tranquillité au sujet. À l'égard des étrangers, il regardait ce ministre-ci comme un homme qui aimait la justice et avec qui ne gagnerait rien à ne pas la aimer eux-mêmes. Il leur avait appris à régler leur ambition et à ne craindre aucune mauvaise tentative de la sienne. Voilà comment on parlait de lui. Mais revenons, nous sommes dans sa chambre. Entre toutes les personnes qui nous entouraient, et qui étaient au nombre de 7 ou 8, tant d'hommes que femmes, quelques-unes semblaient ne me regarder qu'avec curiosité, quelques autres d'un air railleur et dédaigneux. De ce dernier nombre étaient les parents de Valville, je m'en aperçus après. Ah, j'oublie de vous dire que le fils du père nourricier de madame, ce jeune homme qu'on me destinait pour époux, s'y trouvait aussi. Il se tenait d'un air humble et timide à côté de la porte. Ajoutez-y les deux hommes que j'avais vus dans la salle et qui étaient entrés après nous. Je fus d'abord un peu étourdi de tout cet appareil, mais cela se passa bien vite. Dans un extrême découragement, on ne craint plus rien. D'ailleurs, on avait tort avec moi et je n'avais tort avec personne. On me persécutait, j'aimais Valville, on me l'ôtait, il me semblait n'avoir plus rien à craindre. Et l'autorité la plus formidable perd à la fin le droit d'épouvanter l'innocence qu'elle opprime. Elle est vraiment jolie, et Valville est assez excusable, dit le ministre d'un air souriant. Et en adressant la parole à une de ces dames, qui était sa femme, oui, fort jolie. « Oui, pour une maîtresse, passe !» répondit une autre dame d'un ton revêche. À ce discours, je ne fis que jeter sur elle un regard froid et indifférent. « Doucement !» lui dit le ministre. « Approchez, mademoiselle, » ajouta-t-il en me parlant. « On dit que monsieur de Valville vous aime. Est-il vrai qu'il songe à vous épouser ?»« Du moins me l'a-t-il dit, monseigneur, » répondis-je. Là-dessus, voilà de grands éclats de moquerie moqueur de la part de deux ou trois de ces dames. Oh, je me contentais de les regarder encore, et le ministre de leur faire signe de la main pour les engager à cesser. « Vous n'avez ni père ni mère, et ne savez qui vous êtes, » me fit-il après. « Cela est vrai, monseigneur, » lui répondis-je. « Eh bien, » ajouta-t-il, « faites-vous donc justice. » Et ne songez plus à ce mariage-là. Je ne souffrirai pas qu'il se fît, mais je vous en dédommagerai. Je reçois de vous. Voici un jeune homme qui vous convient, qui est un fort honnête garçon, que je pousserai et qu'il faut que vous épousiez. N'y consentez-vous pas ? Je n'ai pas dessein de me marier, monseigneur, lui répondis-je, et je vous conjure de n'en pas presser. M'en priez par... Parti est pris là-dessus. Je vous donne encore 24 heures pour y songer, reprit-il. On va vous reconduire au couvent. Je vous renverrai chercher demain. Point de mutinerie. Aussi bien ne reverrez-vous plus Valville. J'y mettrai ordre. Je ne changerai point de sentiment, monseigneur, repartis-je. Je ne me marierai point, surtout à un homme qui m'a reproché mes malheurs. Ainsi, vous n'avez qu'à voir dès à présent ce que vous voulez faire de moi. Il serait inutile de me faire revenir. À peine achevai-je ces mots, qu'on annonça Valville et sa mère, qui parurent sur le champ. Jugez de leur surprise et de la mienne. Ils avaient découvert que le ministre avait part à mon enlèvement, et ils venaient me redemander. « Quoi, ma fille? Tu es ici ?» s'écria Madame de Miran. « Ah, ma mère, mais c'est elle-même !» s'écria de son côté Valville. Je vous dirai le reste dans la 7e partie, qui, à deux pages près, débutera, je le promets, par l'histoire de la religieuse, que je ne croyais pas encore si loin quand j'ai commencé cette 6e partie-ci.